Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Si l'on en croit un sondage BVA réalisé en ce mois de janvier 2009 pour l'association Astrée, la solitude pourrait bien être l'une des maladies les plus répandues aujourd'hui en France. En effet, et d'après cette étude, 58% des sondés connaîtraient dans leur famille, leur voisinage ou leur entourage professionnel des personnes souffrant de solitude. Des résultats dévoilés le 23 janvier dernier dans les 15 antennes d'Astrée, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Montpellier et bien d'autres, et ce, à l'occasion de la journée des solitudes organisée par l'association. Une association qui, fondée en 1987, a pour vocation de contribuer à la restauration du lien social, de rompre l'isolement et de favoriser le mieux-être de personnes en situation de fragilité sociale et ou personnelle. 10h, ce 23 janvier 2019, à la Maison des citoyennetés des Minimes, avec l'antenne toulousaine d'Astrée, des travailleurs sociaux, des institutionnels et des membres d'autres associations.
Isolement, la tristesse.
Pour moi, la solitude, c'est, je dirais, un manque d'amis et de famille.
Moi, personnellement, ça m'évoque de l'anxiété.
La solitude, elle est pénible.
Donc, être seul, c'est être en dehors de la société.
Quelques paroles recueillies lors d'un micro-trottoir réalisé en 2017 par l'association Astrée.
Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette seconde édition de la journée des solitudes, déclinaison toulousaine d'une opération nationale qui est organisée par l'association Astrée et ses partenaires.
Michel, vous étiez à côté de moi, donc je vous ai vu prendre beaucoup de notes, notamment lors de l'intervention de Pierre Lecause. Si vous êtes ici, c'est que la solitude, d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous touche, vous y êtes confronté à travers vous-même, à travers d'autres.
Je suis bénévole écoutante chez SOS Amitié. Donc, c'est dans le cadre de cette association que j'ai reçu cette invitation. Et après, je suis concernée aussi personnellement par le thème de la solitude, par son approche, voilà. C'est donc les deux casquettes, la personnelle et l'associative.
Vous étiez très nombreux aujourd'hui à venir parler de la solitude.
Parce qu'il y avait une invitation qui a été envoyée aux associations qui travaillent sur ce problème. Et donc, je pense que... Parce que le but, c'est d'échanger aussi et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble comme moyen. Pas rester isolé, chacun dans son association, bénéficier des expertises de chacun.
Des échanges dans lesquels vous vous êtes retrouvés?
Oui, quand les bénévoles d'Astrée se sont présentés et la manière, leur éthique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous, SOS Amitié. Et c'est logique, puisque à partir du moment où on se centre sur la personne et qu'on est dans l'écoute, ben, on n'est pas dans l'intervention, on n'est pas dans les conseils. Voilà. Et on est là pour accueillir la parole de l'autre.
Une journée de sensibilisation qui répond à des besoins, des attentes clairement ou non exprimées. Claire de Gers, bénévole à Astrée depuis 10 ans.
Effectivement, on se rend compte qu'en France, aujourd'hui, là, il y a 10 millions de personnes qui souffrent de solitude. Ce sont les derniers chiffres qui ont été donnés. Donc on voit que ça touche énormément de personnes. Donc un Français sur 10 est touché par ça. Et personnellement. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire chacun individuellement, hein, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'être en lien avec d'autres personnes concrètement. Et pour ça, eh bien, il faut sensibiliser les personnes à ce problème de l'isolement et de la solitude. Et après, donner aux personnes qui ont envie d'aider les autres et d'aller vers les autres, leur donner les moyens d'entrer en relation avec ces personnes, hein, parce que des personnes fragilisées, des personnes en souffrance, eh bien, il faut savoir avoir les attitudes qui vont permettre de rentrer en relation avec la personne et en toute confiance.
Thérèse, si vous êtes ici dans cette association Astrée, c'est que la question de la solitude vous interroge, vous questionne, vous touche peut-être de près ou de loin, à travers vous, à travers votre famille, à travers des proches, à travers des situations que vous avez vécues. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui ?
Ce qui fait, c'est que oui, on rencontre beaucoup de cas de gens seuls, mais surtout dans Astrée, j'ai réalisé qu'il s'établit une relation de confiance et qu'on est en face de personnes qui peuvent tout nous dire et qui prennent le temps. Et donc, c'est ce qui m'a séduit à Astrée, qu'on donnait du temps aux gens, on ne disait rien qui parle de nous. On les laisse juste, on est là, avec la bienveillance, et on leur permet de tout dire et de leur donner le temps qu'il faut. Je suis avec une personne que j'accompagne depuis 1 an et demi. On va peut-être arrêter, c'est vrai que la personne va un peu mieux, mais cette relation de confiance était très importante pour moi. Voilà.
Écoutez, ça veut dire pour vous s'effacer, vous vous effacez pour laisser la place à l'autre?
Voilà, on reste dans l'anonymat d'abord. Et on est bienveillant, on permet à la personne de se reconstruire elle-même en parlant et en l'écoutant. C'est à la personne elle-même de se reconstruire, de trouver les solutions pour repartir après des épreuves très dures et pour aller de l'avant.
Yves, hein, je m'appelle Yves. Oui. Et voilà, oui, j'avais envie d'essayer d'écouter un peu, mais... Je tiens à préciser que je suis un tout petit bénévole. Alors, je veux pas...
Alors écoutez, est-ce que ça s'apprend?
Oui, enfin, je ne le savais pas, mais je n'ai pas la prétention de tout savoir, loin s'en faut. Oui, puisqu'il y a des journées de formation. Oui. Écoutez, ça s'apprend parce qu'on peut se tromper, on peut être dans l'erreur, dans le jugement, dans l'interprétation. On peut, oui. Écoutez, effectivement, ça s'apprend. Pour autant que je sache... Le peu que j'ai appris, l'écoute se doit d'être neutre, bienveillante et surtout centrée sur la personne. Ce qui compte dans l'écoute, c'est la personne, l'écouter, faire en sorte qu'elle puisse ressortir tout ce qu'elle a en elle. Voilà. Mais cette écoute ne doit pas être indiscrète, elle doit être utile, utile pour la personne qui s'exprime.
Oui, écoutez, ça prend, c'est ce que nous expliquait quelques jours plus tôt Claire Déjard, bénévole donc à Astrée, et Agnès Alex, depuis 4 mois, en mécénat de compétences à l'association.
Alors, l'écoute active, donc, c'est effectivement basé sur Carl Rogers, hein, qui était un psychologue américain. Et donc, c'est ce qu'on apprend aux bénévoles, hein, c'est donc ce positionnement très particulier. Donc, c'est pour ça que nous, on forme nos bénévoles. Hein, tous nos bénévoles ont 2 journées de formation pour justement intégrer ce que c'est que l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire se départir de tous nos préjugés. Donc, le bénévole se met dans une situation où il arrête de faire fonctionner son mental en projetant des choses sur la personne, en imaginant qu'est-ce qu'elle vit, en ayant des jugements. Ou alors aussi les attitudes de consolation, hein. Oh mais ça va aller, t'inquiète pas. Aussi toutes les attitudes de conseil. Et vraiment être à l'écoute, ça veut dire
s'oublier soi-même, quoi.
Oui, s'oublier soi-même pour vraiment être centré sur ce que vit l'autre, sans s'interroger nous-mêmes sur, enfin sans être renvoyé par la parole de l'autre sur ce que nous, comment on pourrait le ressentir. Mais comment cette personne, elle vit cette situation? Parce que face à une situation, chaque personne va la vivre différemment en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a déjà vécu et de ce qu'il vit. Hein. Et donc, être bénévole dans l'écoute active, c'est être pleinement disponible pour la personne et concentré vraiment sur sa parole.
En vous écoutant, je me disais, vous êtes comme un réceptacle.
Je modère ce mot de réceptacle parce qu'en fait, on est plutôt un miroir aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on reçoit, on accueille la personne, mais le réceptacle, il y a une idée de remplir. On n'est pas rempli, parce que sinon, effectivement, on risque d'être absorbé et d'être, pas en fusion, parce que le mot est un peu fort, mais être trop proche de la personne. Donc, pour garder cette distance, hein, c'est aussi ça dans l'écoute active, garder une juste distance, tout en étant chaleureux, et donc pas tout à fait réceptacle, hein, mais accueillant, compréhensif. Nous, on parle beaucoup d'attitude empathique, hein, et l'effet miroir qui permet aussi à la personne de prendre conscience, en fait, de parfois les émotions qu'elle ressent. Parce que lorsqu'on est dans l'émotion, on ne sait pas toujours quelle émotion il s'agit, de quelle émotion il s'agit. Et le fait qu'il y ait le bénévole en face qui renvoie ces choses-là, ça permet aussi à la personne de prendre conscience, de clarifier aussi sa situation, de clarifier ses émotions et de lui permettre d'exister. Hein. Le moment où elle va vous confier les choses, le moment où vous lui renvoyez ces choses par l'effet miroir, quelques paroles, hein, des techniques, il y a des techniques aussi qui s'apprennent. Et donc la personne, dans ce moment-là, elle est entendue et elle existe. Hein, parce que des personnes qui ne s'expriment pas, finalement, comment on peut exister sans son rapport à l'autre ?
La solitude ne se voit pas, elle se vit. Cette phrase choc de l'association, comme en filigrane, était déclinée tout au long de cette matinée. La solitude n'est pas non plus réservée à une classe d'âge, à une catégorie socio-professionnelle ou encore à des territoires géographiques. Monsieur Boyer, maire adjoint du quartier des Minimes à Toulouse, dans son mot d'accueil.
Alors la solitude, c'est un vrai sujet. On a tous, à mon sens, cette connaissance qui, parfois, petit à petit, s'isole pour de multiples raisons. Parfois, c'est la maladie qui fait qu'il y a des moments compliqués de la vie, qui fait que... Il y a petit à petit des isolements qui sont le résultat, malheureusement, de situations exceptionnelles. Il y a aussi l'âge. Et en tant qu'élu local, maire de quartier, c'est-à-dire maire des petites choses, ce que j'aime à dire sur un quartier comme celui-là, on voit régulièrement des personnes âgées qui, petit à petit, avec l'âge, ne voient plus leur entourage immédiat parce que des éloignements, parce que les situations de vie. Mais je suis également élu à la vie étudiante et à la jeunesse à Toulouse. Et j'ai découvert, quand j'ai pris cette fonction depuis maintenant 4 ans et demi, qu'on peut être jeune, dynamique, on peut avoir un bon parcours universitaire, être étudiant, et en réalité être dans un total isolement. En réalité, ça concerne tous les âges de la vie, l'isolement. Et j'aurais tendance à dire, parce que ça c'est mon expérience personnelle, c'est que ça concerne tout le monde.
Effectivement, nous, notre public est très varié.
Claire Déjard.
Notre association, donc par l'accompagnement individuel, là, on touche essentiellement des personnes majeures. Hein, donc de 18 ans jusqu'à le stade, effectivement, de la personne âgée. Chez les jeunes... Malgré ce qu'on peut penser, hein, qu'ils sont très connectés, qu'ils sont scolarisés, ils ont beaucoup de monde autour d'eux. Mais avoir du monde autour de soi, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas de la solitude. Hein. C'est toute l'ambiguïté de ce mot solitude. Et c'est pour ça qu'on parle de sentiment de solitude. Hein, parce qu'on peut avoir plein de monde autour de soi et se sentir très seul. Pour le public donc des jeunes qui sont scolarisés, en fait, on ne les suit pas individuellement, mais ce qu'Astré a mis en place depuis déjà plusieurs années, ce sont des interventions dans les collèges, où là, il s'agit de former tous les élèves d'une classe d'âge à l'attention à l'autre. Hein, qu'est-ce que c'est que la souffrance pour pouvoir la repérer chez un camarade? Et une fois qu'on l'a repérée, ben, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 13 ans pour aider un camarade qui va mal. Donc voilà, on forme tous les jeunes d'une certaine classe d'âge à ça. Et après, ce qu'on essaye de mettre en place, donc avec les chefs d'établissement, hein, ça rentre dans le projet d'établissement de l'établissement du collège. Et donc là, on va former ce qu'on appelle des petits parrains, donc c'est-à-dire des jeunes qui ont eu cette formation au départ et qui souhaitent devenir bénévoles, c'est-à-dire être identifiés dans l'établissement comme élèves ressources. Lorsqu'un camarade va pas bien, il sait qu'il peut aller vers tel ou tel élève qui va être bien accueilli, qui va être entendu et qui pourra s'exprimer sans crainte. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, ça permet de lutter contre les violences scolaires, le harcèlement et tout le mal-être qu'on peut avoir à la préadolescence ou à l'adolescence. Après, des étudiants qui sont accompagnés, on n'en a pas énormément. C'est vrai qu'en moyenne, l'âge des personnes qu'on accompagne, c'est 50 ans. Parce que c'est des âges où on a souvent des ruptures, que ce soit des ruptures familiales, des ruptures professionnelles, le deuil, la maladie. Voilà. Donc on touche en fait tous ces publics qui sont touchés par une difficulté et fragilisés à un moment et qui n'ont pas autour d'eux une personne sur qui ils vont pouvoir s'appuyer pour faire face, se redresser, essayer de remonter la pente et s'appuyer sur quelqu'un qui est autour d'eux.
Dans ces personnes, vous me dites autour de 50 ans,
davantage d'hommes, de femmes? Est-ce que vous avez des profils, alors je ne veux pas dire des profils types, mais des profils un peu récurrents?
Alors, effectivement, on a davantage de femmes qui viennent pour être accompagnées. Hein. On a plus de 70% en fait de femmes qui sont accompagnées. Bon, peut-être que on voit bien que les femmes sont davantage intéressées par la parole, hein, et peut-être c'est quelque chose de plus simple pour les femmes que pour les hommes de parler.
De faire la démarche de...
Oui, et même de, on va dire, de se faire aider par la parole. Ouais. Peut-être que les hommes aussi pensent que la parole, c'est un peu une perte de temps, mais ne se rendent pas compte à quel point l'expression de ce qu'on vit par la parole peut aussi aider.
Et en dehors du collège ou de l'entreprise, tout un chacun dans une démarche individuelle peut aller frapper à la porte d'Astrée. Agnès Alex.
Donc l'accompagnement des personnes se fait à titre individuel. Donc les personnes prennent contact, elles sont reçues dans un entretien et on essaye de voir avec elles si on peut répondre à leurs besoins en fonction de leur situation. Et ensuite, on trouve un bénévole parmi la liste des bénévoles que nous avons. En fonction des profils aussi que les bénévoles recherchent, on essaye de mettre en place un duo entre un bénévole et un accompagné qui soit le plus juste possible par rapport à leurs attentes respectives. Et donc après, on met ces trois personnes, enfin donc nous, puis les deux personnes lors d'une entrevue, mmh, où on met en place l'accompagnement. Et donc ensuite, si les deux sont OK, on se met d'accord sur les modalités, le cadre, on a un cadre à respecter. Et ensuite, donc, l'accompagnement peut commencer. Il prend la forme d'un entretien en face à face, une fois par semaine, qui dure en moyenne 1h30.
Vous les rencontrez où ?
Donc, en fait, les personnes se rencontrent soit chez la personne, mais disons que si la personne accepte, hein, bien sûr, qu'on rentre dans son domicile, soit dans un lieu neutre qu'on choisit en ville, soit au local... Et, ou alors encore dans des salles qui nous sont prêtées par la mairie, notamment à la Maison des Associations et à la Maison de la Citoyenneté. On a des salles qu'il est possible d'avoir, mais il faut les réserver à l'avance.
Philosophe et professeur à l'université d'Aix-Marseille, Pierre Lecoz donnait ce matin-là à la Maison de la Citoyenneté des Minimes une conférence sur la solitude et le sentiment de solitude. Et pour l'écouter, ils étaient venus nombreux, très nombreux.
Oui, c'est le paradoxe qu'on se mobilise pour venir en aide à ceux qui n'auront même pas la force de venir à une journée sur la solitude, parce que quand on est vraiment touché par la solitude, on a tendance à se replier sur soi-même. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tout homme est seul. Hein. La solitude, c'est lié à notre condition. Mais ce qui est une souffrance, c'est des solitudes qui durent trop longtemps, une solitude chronique qui nous désocialise. Et ici, on a des gens qui connaissent la solitude, mais qui ne sont pas en permanence tout seuls. Et c'est bien de se mobiliser, de faire groupe, de retrouver la valeur de fraternité pour aider ceux qui sont sur le bas-côté.
D'ailleurs, on parle de la solitude, mais cette journée s'intitule la journée des solitudes.
Oui, parce que on se retrouve seul, soit jeune, quand on n'a pas d'amis, ou seulement des amis virtuels sur Facebook, soit quand on a vécu un deuil, soit quand on a perdu son emploi, on peut se retrouver seul après une séparation, un divorce. Donc il y a différents âges, différentes ruptures qui font différentes manières d'être seul. Et puis il y a aussi la solitude dans le vieillissement quand on se retrouve face à la maladie, confronté au risque de perdre la vie, donc la La solitude que les existentialistes nomment la déréliction, le sentiment d'être abandonné, d'avoir à écrire la dernière page de son histoire. Donc il y a des solitudes subies, il y a des solitudes consenties. Il y a une solitude qui est un soulagement, on se retrouve enfin seul. Puis il y a des solitudes qui viennent de ce qu'on a laissé peut-être un petit peu des relations se perdre. On n'a pas cultivé l'amitié ou bien on se retrouve éloigné géographiquement. Donc il faut distinguer certaines formes de solitude. Certaines sont agréables, positives, constructives. Certaines sont plus destructrices. Et c'est celle-là que l'on doit aider. C'est à ces solitudes-là que l'on doit remédier.
Réflexion et action concrète de terrain, les deux axes de cette matinée des Journées des Solitudes.
Alors, c'est Denise Couffinin, je suis adjointe au maire à Blagnac, déléguée aux seniors. Des personnes isolées, comme on peut le... on l'a entendu ce matin, quelquefois par pudeur, on ne les connaît pas. Et pour nous, le problème, c'est le repérage de ces personnes isolées, seules et fragiles.
Elles sont invisibles souvent.
Elles sont souvent invisibles et ne connaissent pas les droits et les aides qu'elles pourraient avoir pour sortir de cet isolement qui a plusieurs causes. Hein, elles peuvent être financières, relationnelles. Et c'est là où nous avons beaucoup de travail et l'association peut nous aider et nous aide beaucoup. Et nous, à Blagnac, nous avons notre réseau social solidaire.
Je viens de rencontrer à l'issue de cette journée des solitudes, de cette conférence, un certain nombre de jeunes. Vous portez tous un sweat ou un t-shirt de couleur orange et sur lequel je lis Unicité. Qu'est-ce que c'est Unicité ?
Unicité, c'est une association qui engage des volontaires en service civique dans le but d'accomplir un certain nombre de missions différentes. Nous, par exemple, c'est de rendre visite à des personnes âgées autonomes mais en situation d'isolement qui reçoivent peu ou pas de visites, donc que ce soit chez elles à domicile ou en maison de retraite. Et donc nous, mon groupe et moi, notre mission, c'est tout au long de la semaine et tout au long de l'année, c'est de rendre visite à ces personnes dans le but de faire des visites de convivialité, créer des liens avec ces personnes et pour ensuite développer des activités, toutes sortes de choses assez simples, mais dans le but de les d'occuper un peu plus leur journée.
Et Astré, d'où vient ce nom et pourquoi? Que dit-il de l'association Agnès Alex?
Je crois que Astré, déjà, c'est la déesse de la bienveillance. Voilà, donc ça n'a pas été choisi par hasard. Bienveillance. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans l'association, c'est-à-dire que la bienveillance doit être là du début à la fin de l'accompagnement. Et c'est un esprit positif et qui ne juge pas, comme on disait tout à l'heure. Donc dans la bienveillance, on a tout quoi en fait.
Pierre Lecoz, vous êtes un homme de la parole et vous venez de nous dire combien peut-être se taire et écouter et laisser la place à l'autre. Et ça, c'est pas facile. Hein.
Non, c'est le propre de l'humain, hein, c'est de pouvoir s'effacer. Et j'aime beaucoup cette petite phrase « Après vous, je vous en prie », qui est la phrase de politesse ordinaire qui est très riche. Parce que c'est le moment où l'homme s'efface pour laisser l'autre exister. C'est ça vraiment qui fait notre humanité. Être humain, c'est à la fois appartenir à l'espèce humaine et puis en même temps être humain, c'est avoir de la compassion. La compassion, ça veut dire aussi être attentif à la souffrance de l'autre, ne pas la recouvrir, la laisser s'exprimer. Et parfois par le corps, la caresse, exprimer sa solidarité envers ceux qui sont seuls et qui souffrent. Ça nous grandit.
Permettre de sortir de l'isolement, sensibiliser aux réalités de la solitude, apporter un éclairage sur toutes ces formes, mais aussi créer un grand élan de solidarité pour lutter contre ce fléau, tel était l'objectif de la Journée des Solitudes. À Toulouse, vous pouvez retrouver l'association au 63 boulevard Silvio Trentin ou encore par téléphone au 06 95 78 43 00 ou encore par mail à toulouse@astre.asso.fr.